Bonjour et bienvenue sur En Amour, ton émission de podcast dans laquelle nous explorons les méandres des relations amoureuses. On va chercher à ajouter une pointe de conscience, de bienveillance et bien sûr d'amour. Moi c'est Nicolas, je suis ton hôte, je suis aussi l'auteur du blog grainesdecoeur.fr et aujourd'hui je vais te parler de pourquoi c'est essentiel de faire les relations autrement. Tu vois, en pensant à ce thème, en voulant parler de ça, cet élan de parler de ça, des fois tu vois, voilà, je suis pas un créateur de contenu qui planifie avec des thématiques à l'avance et tout. Moi, je me pose, j'enregistre mon podcast mercredi midi pour mercredi soir, je réfléchis qu'est-ce qui est important, ce dont je n'ai pas parlé depuis longtemps, ce qui me tient à cœur de partager, et puis je me laisse un peu guider, quoi. Et c'est ça qui est venu, et pareil, souvent, ça fait quelques semaines que c'est là, qu'il y a des choses qui viennent, qu'il y a des pensées qui sont là autour de ce thème-là. Et d'une certaine manière, je pourrais résumer ce podcast en une phrase ou deux et puis terminer là, mais bien sûr, j'ai bien plus de choses à partager que ça. C'est qu'il faut faire les relations autrement parce que le modèle traditionnel, il ne va pas à tout le monde, déjà dans un premier temps. Donc je te parle du couple exclusif, marié souvent, deux enfants, un peu vraiment le stéréotype, quoi. Bien sûr, il y a plein d'alternatives à ça, déjà dans un couple traditionnel, on va dire, qui est plus traditionnel, qui reste exclusif, qui reste marié ou pas, etc. Et donc même dans ce cadre de quelque chose qui ressemble à du traditionnel, il va y avoir plein de nuances dans la manière de communiquer, dans le rapport à l'autre, dans même le sens qu'on donne à cette relation, le sens qu'on donne à notre amour, à l'amour qu'on partage, peut-être la manière de faire la parentalité, la manière de vivre la sexualité, voilà, il y a plein de choses que je te cite pas là, qui vont toucher au couple de près ou de loin, mais qui sont à repenser, à revoir, à nuancer ou à modifier. C'est pas toujours mal, entre guillemets, ou pas bien, ou pas assez bien. Il faut complètement le déconstruire et créer quelque chose d'autre. C'est des fois, il faut juste, ok, l'ajuster à toi, à ce que toi t'as envie de vivre, à qui tu es, avec qui tu es en couple, ta situation d'aujourd'hui, qui tu es. Parce que moi, je pars du postulat que tu es un être unique, que tu es en couple avec un autre être unique. Et du coup, il ne peut pas y avoir vraiment une solution pour toutes et tous dans ces cas-là. C'est pas possible que je ne vais pas te dire aujourd'hui la bonne manière de faire les relations de couple. Ça n'existe pas, en fait. Ça dépend de tellement de paramètres, de tellement de choses. Je vais te présenter plein d'options, en fait, entre guillemets. Puis après, c'est à toi un peu de voir de, ok, dans ces options-là, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer? Est-ce que ça renforce où tu es déjà? Est-ce que ça te donne un élan pour autre chose? Peu importe, c'est pas important le résultat, on va dire, que ça crée chez toi ce podcast. C'est vraiment cette idée de se poser la question déjà et de se dire arrêter le par défaut, quoi. Sortir du je fais les choses par défaut, je suis en couple exclusif à deux, marié, deux enfants, boulot, travail, métro, parce que mes parents faisaient ça, parce que mes copains font ça, parce que la société veut ça de moi. Peut-être que oui. Peut-être que ça te correspond pas du tout. Bien sûr, si ça te correspond, c'est fantastique. J'ai vraiment rien contre ça. Hein. C'est une option qui est tout à fait valable, à condition qu'elle te corresponde, qu'elle corresponde avec la partenaire ou le partenaire avec qui tu es, et que ce soit la manière dans laquelle vous vouliez vivre le couple. Et là, il y a vraiment aucun souci. Si c'est le cas, le problème, c'est que on est souvent là dedans, on est beaucoup à être là dedans et à vouloir au moins des nuances de ça. Ou voir avoir complètement autre chose. Et c'est pas nécessairement l'invitation, c'est pas nécessairement de vouloir complètement autre chose, c'est pas mieux ailleurs, c'est juste que c'est... Il y a un moment donné, tu vas réussir à te connecter à ce qui est important pour toi dans la relation avec qui tu es, et tu vas dire, voilà, c'est comme ça que j'aimerais vivre ma relation, quoi. Encore une fois, ça peut être dans la communication, dans la sexualité, mais en restant dans le cadre de l'exclusif et tout ça, il n'y a pas de problème avec tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel d'apprendre à se connaître et à se découvrir, que ce soit personnellement ou relationnellement, pour savoir ce que tu veux vivre, comment tu veux le vivre, avec qui tu veux le vivre. C'est quelque chose... J'avais fait un épisode, alors j'ai oublié le titre ou même le numéro, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça, sûrement quelques mois au maximum, où vraiment je te parlais de ça. Il y a des gens qui vont te dire qu'il faut être bien tout seul avant d'être en couple, qu'il faut explorer tout seul avant d'être en couple. Peut-être, et peut-être que c'est important à certains moments de la vie, et en même temps, moi je trouve que le couple, c'est vraiment une voie où on peut apprendre à se connaître, faire face à la réalité de comment on est avec quelqu'un d'autre. Moi, je suis pas pareil dans les phases de vie où j'étais tout seul célibataire. Je suis pas nécessairement pareil que quand je suis en couple. En fait, c'est une dynamique différente. On pense pas de la même manière. On n'a pas les mêmes projets. Il n'y a pas nécessairement à inclure l'autre. Et donc, ça permet d'exprimer des parties de soi un peu différentes, de les développer peut-être un peu, de les cultiver pour qu'après, si c'est une période de célibat, hop, tu cultives un peu des choses qui sont importantes pour toi et qui après tu vas pouvoir ramener entre guillemets dans le couple et te dire Voilà, maintenant on est deux, donc je peux plus exactement faire comme je faisais avant, peut-être, probablement, et en même temps, je veux quand même garder ça, donc comment je fais, quoi? Comment je trouve ces équilibres-là? Et ces ajustements, ces choses à... Voilà, ce être relationnel, ces envies relationnelles, ça peut être plus ou moins de couple, et là, je te parle pas nécessairement de relations exclusives ou non exclusives, je te parle d'autres choses, on parle de plus ou moins de profondeur et d'importance au fait d'être en couple. Il y a des gens pour qui le couple c'est tout presque dans leur vie, c'est vraiment important, et des gens pour qui le couple c'est très secondaire. Et les gens pour qui c'est très secondaire, ils sont probablement pas en train d'écouter ce podcast. Si toi t'écoutes ce podcast, c'est sûrement, tu fais sûrement partie des gens pour qui le couple fait partie des choses importantes, fait partie des choses dans lesquelles tu veux mettre de la profondeur, tu vois. Donc bien sûr, il y a la relation, et peut-être que pour certains couples, il y aura plus ou moins d'amis autour d'eux, plus ou moins de famille. Il y a des gens qui sont très sociaux. On prend cet exemple de ma compagne et son ex, il était avec un ex qui partait tout le temps en vacances avec des amis, même quand il était en couple, il fallait partir en vacances avec des amis. Moi, je suis d'une famille où on n'a jamais fait ça, et du coup, ça fait aucun sens pour moi. Je comprends pas comment, en tant que couple, on va en vacances avec un autre couple d'amis. Et peut-être qu'il faudrait qu'on essaye ça pour comprendre un peu, ben voilà, le côté social. Alors c'est plus pour boire, pour faire la fête, ce qui m'intéresse plus trop aujourd'hui. Mais tu vois, donc nos enfances à lui et à moi, on nous ont formatés d'une manière que on fait le couple de manière automatique sans réfléchir à, ok, pour les vacances, ben moi les vacances c'est à deux en amoureux. J'ai jamais pensé à partir avec d'autres couples d'amis. Enfin, ça fait pas de sens pour moi. Peut-être que j'apprécierais en fait ce genre de choses. Donc pour te rappeler vraiment. Ouais, le conditionnement dans lequel on est, des fois les choses qu'on pense normales ou automatiques, elles ne le sont pas toujours. Donc plus ou moins de famille, plus ou moins de profondeur, plus ou moins d'importance, plus ou moins de confiance, plus ou moins d'engagement, c'était familier avec ces deux termes-là que j'amène souvent. Donc là déjà, si on reste dans un cadre d'un couple traditionnel, d'un couple exclusif, il y a déjà pas mal de choses qui peuvent varier dans ce qu'on a vu un peu plus haut, dans la communication, le rapport à l'autre, le sens de la relation, le sens de l'amour, le sens qu'on donne, hein, la parentalité. Il y a pas mal de choses déjà qui peuvent être ajustées, qui peuvent être là. Bon, voilà, c'est pas parce que je suis un mec et que je suis dans un couple exclusif avec des enfants que je dois avoir ce rôle précis-là que la société a défini pour. Peut-être que je peux avoir un rôle différent, peut-être que ma compagne, elle peut avoir un rôle un peu différent et que ça va être quand même bien pour les enfants, en fait. Peut-être qu'il y a moyen d'ajuster, peut-être que, voilà, dans cette relation exclusive, il y a ma place en tant qu'homme, entre guillemets, qui selon l'homme que je suis, c'est sûrement pas la même que celle qu'un autre homme prendrait, etc. Et comment on fait avec ça? Comment on fait avec ce réel-là, avec qui je suis, en fait? Comment je trouve ma place et j'ajuste ma place? Et bien sûr, je permets à ma partenaire de faire pareil, quoi. Ça, c'est important de se poser ces questions-là. Bien sûr, pour d'autres, quand on parle de couple et de faire les relations différemment, il y a la question de l'exclusivité sexuelle, j'ai déjà abordé plusieurs fois, qui va être là, quoi. Et ce que j'aimerais amener là-dessus, c'est qu'il y a plein de manières de regarder ça, de penser à ça. Ce que je trouve dommage quand on parle de non-exclusivité sexuelle, c'est souvent, on va vraiment mettre les gens dans les cases. On est soit exclusif, soit non-exclusif. Pour moi, il y a des nuances à l'exclusivité. Par exemple, je t'en donnais un qui peut paraître très, très simple et peut-être qui est important pour toi de prendre en compte ou de discuter dans ta relation, surtout si c'est dans une relation exclusive, c'est d'avoir une non-exclusivité temporaire ou avec une personne ou le temps d'une soirée ou le temps d'un fantasme. En fait, par exemple, on est beaucoup à avoir des fantasmes qui appliquent plus que deux, et du coup, ben, si tu es dans un couple exclusif, comment ça c'est explorable? Ça l'est peut-être pas dans toutes les relations, et c'est aussi ok, on n'a pas à satisfaire tous les fantasmes, pareil, j'en avais pas dans un autre podcast, on n'a pas à réaliser tous ces fantasmes, et en même temps, il y a certains fantasmes qu'on a vraiment envie de vivre. Donc comment, voilà, comment t'ajustes ça dans une relation exclusive mature, dans une relation exclusive authentique? Peut-être qu'il peut y avoir de la place à réaliser, explorer des fantasmes. Je ne veux pas créer une injonction en te disant, bah, si ta relation elle est mature, si ta relation est authentique, il doit y avoir de la place. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que c'est peut-être c'est une option, quoi. C'est une option que toi tu peux prendre, que toi et ta compagne tu peux ou ton compagnon tu peux avoir. Et ça fait partie des choses qui pour moi, on peut rester dans l'exclusivité. C'est parce que si on serait à l'inverse dans la non-exclusivité, ça veut dire que si quelqu'un te plaît, tu as le droit d'aller coucher avec, par exemple. Là, quand on va explorer un fantasme, c'est pas vraiment ça, quoi. Il y a vraiment beaucoup de conscience qui est mise. On se dit, ben voilà, on va vivre cette expérience-là, quoi. On va vivre 3 mois de non-exclusivité, et après on revient à l'exclusivité, on en débriefe, on en parle, on fait machine arrière, on voit comment on est, quoi. Il y a vraiment ces nuances-là qui sont possibles, ces étapes, ces essais, ces erreurs, ces choses qui vont, ces choses qui vont pas, ces choses à réajuster, quoi. C'est pas une porte qu'on ouvre et on l'ouvre pour toujours. Ça peut être vraiment important de si tu veux aller vers là dans ton couple, de pas rater cette étape-là, quoi. Pas rater ce... On va ouvrir cette porte, ça veut pas dire qu'on peut pas la refermer. Ça peut vouloir dire que l'un des deux ne voudra pas la refermer. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué, hein. Mais je t'en parlais un peu... Enfin, je voulais en parler un peu plus tard, mais c'est pas... Vivre un couple plus authentiquement, vivre un couple qui te correspond plus, vivre un couple qui est plus ajusté, qui n'est pas juste dans les normes sociales actuelles de notre société à nous, qui rentrent, tu vois, mariés, de nos enfants, etc., qui rentrent dans les clous, ou pas mariés, mais pareil, entre guillemets. Dès que tu vas vouloir vivre un peu en dehors de ça, c'est pas nécessairement plus facile. Ça demande du courage, ça demande de l'honnêteté, ça demande de l'expérimentation, ça demande de l'essayer, il y a pas mal de choses, quoi. Et tu verras que vraiment, donc dans l'exclusivité ou la non-exclusivité, il peut y avoir des nuances. Moi, j'ai croisé des gens, je vais même te parler plutôt d'une émission de podcast, j'en parle régulièrement, de cette thérapeute américaine, Esther Perel, qui fait vraiment des séances de thérapie de 2 heures, qu'elle condense en podcast de 40-50 minutes, qu'elle anonymise et qu'elle publie sur sa chaîne, c'est en anglais. C'est Where Should We Begin, le nom de l'émission, donc par où on commence, entre guillemets. Et il y a ce couple-là qui échangissent, mais un week-end, ils sont exclusifs 362 jours par an, et ils vont à Las Vegas, ils font de l'échangisme ce week-end-là, et après, voilà, la relation est exclusive, ils avaient besoin d'un peu pimenter leur relation après 20 ans de mariage, quelque chose comme ça. C'est leur manière à eux, tu vois, et si tu leur demandes, ils vont pas dire, bah oui, on est échangiste. Ils vont dire, non, on est exclusif, on fait de l'échangisme de temps en temps, c'est très différent de, tu vois... Est-ce que tu t'associes à une pratique sexuelle, à une manière de vivre ta relation? On est en relation ouverte, on est en relation exclusive. Bon, bah, peut-être qu'elle est exclusive à 99,9% ta relation, mais qu'un jour pour un fantasme, elle ne le sera pas. Et peut-être que c'est OK. Peut-être que c'est OK comme ça. Donc, bien sûr, il y a de la nuance ici. Il y a de la nuance dans les autres pratiques ou dans les autres manières de vivre la relation, que ce soit l'échangisme, le libertinage, pour ceux qui vivent le polyamour, pour celles et ceux qui vivent les relations libres ou ouvertes. Là aussi, il y a plein de nuances, hein, là-dedans. Des fois, on va avoir tendance à mettre des... Alors bien sûr, il y a des règles, une sorte de code des fois, si tu vas dans l'échangisme ou si tu vas dans le libertinage, si tu rencontres des gens qui le font, ils vont te dire bah, ça se passe comme ça, et puis voilà, le consentement, le truc. Et en même temps, si tu discutes avec des gens qui vivent ça, j'avais fait un café sexo, il y avait pas mal de gens qui pratiquaient notamment le libertinage, c'était pas nécessairement l'image que j'en avais, quoi, c'est des gens qui vivent leur libertinage qu'en couple, etc. C'est pas, y a pas vraiment d'échangisme, enfin, il peut y en avoir pas toujours. Il y avait vraiment des règles, quoi, très précises qui faisaient qu'ils vivaient leur libertinage d'une certaine manière. Et c'était intéressant de se rendre compte que c'est pas noir ou blanc, ça a pas à ressembler à ce que les autres font, des fois. Tu peux vivre ton couple avec un mélange de tout ça, alors peut-être pas tout, mais voilà, tu peux, encore une fois, échangiste une fois par an, bon, bah, est-ce que t'es un échangiste, enfin, faire de l'échangisme une fois par an, est-ce que t'es échangiste? Ce couple-là ne se considérait pas comme échangiste, il se considérait comme exclusif. Donc c'est un peu à toi de voir comment tu veux le voir et ce qui est important pour toi. Mais bien sûr, il y a des règles plus ou moins tacites, et en même temps, il y a des manières plus courantes de faire. Donc ça, c'est deux choses qui peuvent un peu figer les choses, mais là, c'est vraiment l'invitation, c'est de regarder, aller dans la nuance de ce qui est juste pour toi, si c'est des choses que tu veux explorer dans ton couple, à vraiment te dire, bah voilà, nous, on veut le vivre comment, ça, on veut pas nécessairement... Bien sûr qu'on peut regarder les codes, les règles plus ou moins implicites pour savoir dans quel milieu on va, qu'est-ce que ça va être les attentes des autres, peut-être comment nous poser notre cadre à nous, nos règles à nous dans ce cas-là, parce que ben, on va pas être exactement aligné avec ce qui se fait, entre guillemets, du coup, ben, comment on va le naviguer. Donc ça va être vraiment intéressant de s'y intéresser et en même temps de te dire, ok, moi, comment j'ai envie de le vivre, quoi. Et tu verras que là aussi, il peut y avoir beaucoup de nuances, des règles sur mesure pour ton couple, pour qui tu es, pour qui est ton ou ta partenaire. C'est vraiment important. Donc, je voulais un peu poser, avant d'aller plus loin, poser ces quelques bases pour se rendre compte que tout ça, c'est possible, que tout ça, ça existe et qu'il y a des grandes catégories et en même temps, il y a des nuances et en même temps, il y a de l'ajustement. Et si je te parle de tout ça, c'est vraiment pour que tu puisses regarder ce qui est là pour toi. C'est souvent des tabous, hein, c'est des choses auxquelles on ne parle pas trop. Il y a des gens qui fantasment sur le polyamour, sur l'échangisme, sur le libertinage, mais voilà, ils n'osent pas trop ouvrir cette porte, quoi. Ils n'aiment pas trop regarder parce qu'ils sont déjà dans une relation où il y a tout un préjugé sur c'est quoi une femme libertine, par exemple. Est-ce que c'est une S-A-L-O-P-E, enfin, tu vois, ce genre de choses. Il y a plein de trucs comme ça. Et si tu discutes avec des gens qui le vivent, bah, peut-être qu'il y a des choses... Des barrières à casser, en fait. Il y a des choses. Donc, peut-être rencontrer des gens qui le vivent, ça peut être un bon début. Lire des livres, il y a des livres sur le sujet, écouter des vidéos de gens qui en parlent. C'est pas des milieux que je fréquente vraiment. J'ai des amis qui le... Enfin, voilà, ça m'est arrivé, dans des cafés sexo, d'avoir l'occasion de parler avec des gens, puis d'avoir comme j'ai une curiosité sur le couple, c'est des choses que j'explorais aussi pas mal en ligne, on va dire moins, on va dire dans le concret, dans le réel, mais vraiment plus lire des témoignages, trouver des gens sur des groupes Facebook qui le vivent et puis discuter avec eux pour vraiment un peu comprendre, mettre de la nuance aussi là-dedans. Donc je t'invite, quel que soit ton élan, vraiment à explorer ça et puis en parler à des gens qui eux pratiquent, qui eux le vivent, et tu te rendras compte que, encore une fois, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, et il y a peut-être des choses qui te vont. Et ça me paraît intéressant de se poser la question. Vraiment de se poser la question et de se dire, bon ben voilà, est-ce que j'ai envie de vivre ça? Moi, j'en avais déjà parlé une fois sur le podcast, que j'ai eu une séparation, j'ai eu vraiment un élan pour le polyamour, j'ai vraiment eu envie de vivre ça, etc. J'ai parlé avec des gens qui le vivaient, pareil, j'ai un peu essayé de comprendre c'est quoi les codes, c'est quoi les règles, etc. Et puis je me suis mis en couple avec quelqu'un qui est exclusif, et en fait je me suis rendu compte que non, en fait, je voulais. Voilà, il y avait peut-être un vide suite à la séparation d'avant, il y avait des choses, il y avait peut-être une curiosité pour ça, mais en fait non, vraiment la rencontre m'a permis de me rappeler aussi ce que j'avais envie de vivre. Donc c'est ok d'avoir une curiosité, c'est ok d'explorer, ça ne veut pas dire que tu vas aller le vivre. Il peut y avoir une période de ta vie où, moi je connais des gens, ils ont vécu 5 ans de polyamour, ils sont retournés vers l'exclusivité, ça leur va très bien. Un de mes mentors, c'est comme ça qu'il en parle, je ne sais plus les années, mais vraiment, voilà, il a vécu du couple, il a vécu du polyamour, maintenant il fait du couple exclusif et ça lui va très bien. Donc c'est encore une fois, porte ouverte, ça ne veut pas dire une porte fermée. Curiosité, c'est ok de l'avoir et d'aller regarder, d'aller discuter, d'aller peut-être même expérimenter. Si tu as la chance d'être dans une relation, c'est possible, ou si tu as la chance d'être célibataire et de pouvoir le faire, bah pourquoi pas, d'aller entre guillemets, ouais, voir ça dans le concret avec l'expérimentation. Ça te permet aussi de te rendre compte, peut-être de parler de tout ça, de m'entendre parler de toutes ces choses-là. Bien sûr, ça peut poser des questions, créer de la curiosité, te dire ah ouais, et ça, et ça, et ça, parce que des fois on fantasme un peu ces choses-là. Ouais, le polyamour, on va avoir plein de partenaires, ça peut être super. On parle aussi des problèmes avec les gens qui vivent le polyamour, quoi. Moi, j'ai une des personnes que j'avais contactées, elle me disait toujours que c'était une multiplication de l'amour, pas nécessairement sexuellement, mais vraiment de la tendresse, de l'affection, du sentiment d'amour, mais aussi des problèmes. Donc voilà, est-ce que tu veux multiplier tes problèmes à la hauteur que tu multiplies l'amour dans ta vie? Bon, je sais pas, ça t'appartient, quoi. Puis c'était son expérience à elle, peut-être que ce sera différent pour quelqu'un d'autre. Mais ça permet de te rendre compte, peut-être, ouais, est-ce que je suis au bon endroit en fait? Ouais, je suis dans une relation exclusive, ça peut ressembler assez à du traditionnel, et en même temps, ça me va très bien. C'est cool ça aussi si c'est le cas. Et si c'est le cas, bah, vraiment, on va voir un peu plus loin, mais peut-être, et revenir à ce que j'ai dit au début, mais voilà, communication, rapport à l'autre, sexualité, comment, dans ce cadre-là, qui peut paraître traditionnel, comment toi tu veux vivre le détail en fait, pas juste entre guillemets la case dans laquelle tu rentres, pas juste te dire, bah voilà, je suis bien dans cette case-là, c'est ce que je veux vivre, mais vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Comment tu peux mettre de la conscience sur tout ça, quoi. Parce qu'encore une fois, on vit le couple exclusif souvent par défaut. Car tout le monde le fait, et pas de problème si ça te va. Moi, c'est ce que je vis, ça me va. Donc, tu vois, il n'y a pas de. Encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui est, je sais pas, qui est pro-polyamour et qui vit polyamour et qui dit que c'est la meilleure truc. C'est vraiment pas mon approche, moi. C'est pas de dire que l'un est mieux que l'autre. C'est vraiment de se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui est bien pour moi? Où sont mes curiosités? Où sont mes élans de vie? Où sont mes élans d'amour? Et voilà, et tisser avec tout ça, explorer tout ça et trouver ce qui est juste pour toi. Et donc, ça me paraît essentiel de parler des choses. Dans ce cas-là, que je ne vis pas ou que je n'expérimente pas, parce que bah, si tu veux un couple sur mesure, et c'est un peu moi ce qui est important, ce que je trouve important, moi, d'avoir un couple sur mesure, il faut bien sûr explorer toutes les possibilités, on va dire, que la relation à l'autre, parce qu'on n'est pas nécessairement dans le couple des fois, hein, ça permet, quoi. Donc voilà, si ça te va, le couple exclusif qui est tradit, bah aussi regarde du côté des rôles dans ton couple. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, bien sûr, de la communication, de la sexualité. On va parler un peu de sexualité plus tard, donc je ne vais pas revenir trop dessus. Donc à explorer tout ça, à mettre de la nuance, pour ajuster, pour vivre ton quotidien de manière plus alignée, quoi. Vraiment pour te rendre compte, te dire, ok, oui, bien sûr, on est dans quelque chose qui ressemble à du traditionnel, bien sûr. Mais peut-être que notre traditionnel à nous, il est légèrement différent que celui du voisin, qui est légèrement différent que celui des autres, et on n'est pas obligé de rentrer dans toutes les cases qui les attentes sociales, familiales, etc. Ça peut être vivre ensemble ou pas, ça peut être d'être pacsé, d'être marié ou pas, par exemple, hein, d'autres choses. Je balance un peu peut-être des idées pour que tu réfléchisses un peu à tout ça, mais c'est pas parce que tu vis à deux, ça tu vas t'en rendre compte, ça dépend un peu de ton âge, mais pour les gens qui ont été déjà divorcés. Le mariage est vachement moins important. Pour les gens qui sont en début de vie, que c'est leur première relation vraiment qui dure, il y a vraiment cet élan de se marier, quoi. Il y a y a vraiment cette envie-là qui est là chez beaucoup de gens. Puis après, une fois que tu t'es marié, t'es là. Ouais, allez, on va faire un pacs pour les papiers, mais pour les impôts, pour. Mais peut-être le mariage, non, quoi. C'est compliqué à défaire, c'est pas. Voilà, y a pas mal de choses. J'ai été accompagné à la séparation avec mon ex-épouse par une personne qui avait, je sais pas, 60 ans, qui avait été prêtre puis moine bouddhiste, donc qui avait passé sa vie à accompagner les gens dans la séparation, dans le mariage aussi, quand il était prêtre. Et il disait que vraiment, le mariage, ce qu'il voyait le plus, lui, c'est que les gens, quand ils se marient, ils s'en rendent pas compte, c'est pas leur intention, mais ils prennent possession de l'autre, entre guillemets, l'autre leur appartient et ça détruit les relations et c'est très dur à la fin, quoi. Parce que l'autre ne nous appartient pas, l'autre est authentique et vraiment souverain, et du coup, bah, il va pas devenir la personne qu'on veut, il va pas faire ce qu'on veut, etc. Et voilà, comme on essaie de ces fois, on a le sentiment que nos enfants nous appartiennent, quoi, alors que pas du tout. Ils vont devenir qui ils ont envie de venir et c'est parfois difficile. Donc voilà, mettre des nuances là-dedans, quoi. Moi, j'ai vraiment cette idée de pas vivre ensemble. Avec mon ex-épouse aussi, il y a un moment donné, on a vraiment exploré ça. On l'a pas vécu parce qu'on a décidé de se séparer, enfin, elle a décidé de mettre fin à la relation. Mais c'était un truc, il y a beaucoup de choses qui allaient très bien au quotidien, des choses qui allaient pas bien. Et voilà, on était là, bah, qu'est-ce qui se serait en fait si on vivait ensemble, quand on s'était vraiment projeté. Et voilà, du coup, je l'ai pas nécessairement expérimenté, mais moi, je connais pas mal de gens, surtout avec l'âge aussi, encore une fois, des personnes qui ont plus de 50, 60 ans, 70 ans. Et de plus en plus des jeunes qui ne vivent pas ensemble, mais qui sont dans des relations long terme, qui sont dans des relations légèrement engagées. C'est peut-être éventuellement une fuite pour gérer ben, les problèmes, on va dire, du quotidien de la vie à deux, parce que vivre avec l'autre, c'est pas forcément plus simple. Ça amène, moi, je trouve beaucoup de choses, vivre à deux. Moi, j'aime bien vivre avec ma partenaire, parce que je trouve ça vraiment génial le quotidien, mais ça amène des problèmes, des tensions, il y a plein de trucs à gérer de la vie commune, quoi. Alors, c'est aussi quelque chose, voilà. Est-ce qu'on vit ensemble, est-ce qu'on vit pas ensemble, est-ce qu'on vit ensemble la moitié de la semaine, etc. Donc, voilà, d'avoir une manière d'être à deux qui est différente, qui est décalée par rapport aux amis, à la famille, aux proches, voilà, et de créer quelque chose qui te va. Ça peut être encore une fois, peut-être une dernière chose, voilà, pas faire les vacances ensemble, peut-être, quelque chose comme ça. Tu vois, beaucoup de couples font les vacances ensemble. Bah, des fois, peut-être que tu fais que la moitié des vacances ensemble. Ça peut être aussi intéressant. Peut-être que tu vas tout seul avec des amis en vacances, avec des couples d'amis, j'en sais rien. Et tu vas commencer à vraiment mettre de la nuance et vraiment être dans ce qui est juste pour moi. Et peut-être que socialement, ce sera vu un peu bizarre. T'en parleras pas au travail, t'en parleras pas à tout le monde. Peut-être qu'il faudrait cultiver un petit jardin secret avec la famille, avec certaines choses. Que ce soit pas faire les vacances ensemble, que ce soit s'être autorisé à vivre des fantasmes dans la sexualité avec quelqu'un d'autre, à plusieurs, etc. Et voilà, peut-être des choses que tu vas pas pouvoir permettre de parler à tout le monde, mais en même temps, ce sera peut-être ce qui est juste pour toi, et tu pourras le vivre à l'intérieur de ton couple, dans le secret, entre guillemets, on va dire, de ton couple. Et ce qui m'intéresse aussi, hein, dans vivre le couple sur mesure, de vivre le couple autrement, c'est ta manière de vouloir le vivre, mais avec où tu en es actuellement. Parce que c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps, à cette période avec qui tu es à cette période de ta vie, quoi, vraiment ça. Et comprendre que oui, ça peut évoluer, que tu peux changer, que tu as peut-être fait 10 ans de couple exclusif et que tu veux faire un an ou 2 ans de polyamour, de trucs un peu plus fous, un peu plus libres pour vraiment vivre des expériences. Et puis après, quand tu retrouveras une personne que tu as guéri, tu auras pensé tes blessures de la séparation, bah, ou que tu auras vu que coucher avec X mec ou X nana, c'est pas nourrissant, bah, peut-être que tu reviendras au couple et. Voilà, etc. Il y aura des allers-retours, quoi. Il y a des gens qui reviennent jamais du polyamour, qui reviennent jamais de l'échangisme ou du libertinage. Et il y a des gens qui en reviennent et qui disent, bah, en fait, c'était bien. Et puis voilà, ça a ses limites pour moi. Et c'était pas, voilà, c'était une belle étape de ma vie, une belle phase de ma vie. Et maintenant, je veux autre chose. Et vraiment, les deux sont possibles, hein. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il n'y en a pas un qui, parce qu'on a vécu. Alors bien sûr, ça va transformer de le vivre, mais. Ça ne veut pas dire qu'on pourra jamais refermer cette porte. Moi, j'ai croisé des gens qui ont fermé cette porte. Ça a duré des fois quelques années, des fois 10 ans, des fois 20 ans, ça dépend. Mais c'est une porte qui est refermable, entre guillemets. C'est aussi une peur qu'on a des fois, hein, de se dire, bah, voilà, il y a une sorte de hiérarchie dans les types de relations. Alors, la relation de base, c'est le couple, on va dire, hétéro, exclusif. Et puis après, bah, il y a le libertinage, c'est au-dessus, le polyamour, c'est au-dessus. Ça dépend des gens, tu mettras dans l'ordre que tu veux, mais il y a peut-être ça des fois. Non, c'est juste des choix différents. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste différent. Et c'est super, moi je trouve, de vouloir au fil du temps de se rendre compte quand on se connecte à ce qu'on veut vivre, hein, dans ces relations. Et ça peut être encore une fois une exclusivité sexuelle ou pas, mais pas nécessairement. Moi je vis principalement de l'exclusivité. et ma manière de faire mes relations aujourd'hui n'a rien à voir avec il y a 10 ans. Et pourtant, bah, c'est dans la même case, quoi. C'est dans la même case, c'est de l'exclusivité sexuelle, c'est de la relation exclusive. Bon, bah, dans cette case-là, il y a plein de choses qui ont changé. Donc c'est ça qui est intéressant, donc, de voir comment ça évolue, de voir comment je co-crée, comment toi tu vas recréer tes relations. Et voilà, je te dis, c'est super d'évoluer, et aussi, c'est peut-être confrontant et délicat, parce que quand t'as vraiment évolué, entre guillemets, que t'as changé des choses, et que t'es prêt à rencontrer quelqu'un d'autre, que t'étais célibataire, et que tu dis, ok, je vais tester ce truc-là, j'explorer ce truc-là, et puis, alors là, il y a plein d'excitation, d'envie, d'entrain, c'est super, quoi. Par contre, quand t'es dans une relation longue durée, que tu te rends compte que, bah, il y en a un qui, pour lui, le polyamour, le libertinage, l'échangisme, le BDSM, le truc, il y a quelque chose qu'il faut vraiment qu'il vive et que l'autre veut pas du tout, et qu'il va falloir se réinventer, qu'il va falloir peut-être se séparer, qu'il va falloir trouver des entre-deux, c'est vraiment plus compliqué, donc voilà, c'est super, et en même temps, ça peut pas dire que c'est facile, quoi. C'est vraiment, ça demande vraiment du courage de vouloir vivre ces relations authentiquement, ces relations comme on a envie de les vivre. C'est pas toujours synonyme de relations qui durent. Je vais prendre ce parallèle, moi, avec les voies spirituelles. Moi, je pratique le tantra. Nos mentors, ils disent souvent que quand une voie spirituelle, c'est pas toujours super facile pour la vie de couple. Alors, tu le vois hein, facilement dans des voies spirituelles comme une religion où, bah, si tu deviens prêtre, bah oui, le couple, il a peu de place, pas de place, pas du tout de place. Ça dépend un peu de prêtre, de quel prêtre tu viens. Les orthodoxes, c'est un peu différent, etc. Ce genre de choses, donc bien sûr il y a des nuances dans la religion, mais des fois ça veut dire mettre à côté ça. Si tu pars dans quelque chose de moins religieux, qui est plus spirituel, comme le yoga, comme le tantra, etc., bah ouais, ça peut être super pour le couple, et moi j'aime beaucoup vivre ma spiritualité et mon couple, et en même temps, d'après des personnes qui, on va dire, vécu ça depuis plus longtemps que moi, ils disent que parfois c'est compliqué, quoi. C'est un chemin, on est seul sur une voie spirituelle, entre guillemets. Alors oui, des fois on arrive à aménager le chemin, la voie, on arrive à faire des compromis, on trouve des solutions pour avancer à deux, et en même temps, il y a le risque que, pour faire une exploration sur une voie, il faille passer par des phases d'exploration qui sont pas toujours compatibles ou pas toujours simples avec les relations. Donc ces choses-là, je dis pas avec une légèreté, en juste, c'est trop bien, vas-y, fonce, tu vas voir, ça va bien se passer. Non, ça va peut-être accrocher, ça va peut-être piquer, ça va peut-être te chambouler, et en même temps, pour moi, il n'y a pas vraiment d'alternative, parce que si tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu restes dans une relation qui ne te correspond pas, et ben, ça va faire quoi sur le long terme? Tu ne vas pas être heureux, tu vas la saboter, tu vas la perdre cette relation, tu vas être dépressif, il va y avoir des choses qui vont se passer, qui vont se manifester mentalement, physiologiquement, il y a des choses qui ne vont pas aller, quoi. Donc voilà, en même temps, c'est compliqué, en même temps, ça peut être un bel élan, et en même temps, c'est ne pas le faire. Pour moi, il n'y a pas vraiment, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'alternative. Donc là, je t'ai parlé de pas mal de choses, c'est un peu brouillon, il y a pas mal de cartes de lecture, des choses que j'ai abordées un peu rapidement. Donc là, je vais en prendre 3 de cartes de lecture que je vais détailler un peu plus, pour vraiment te donner des pistes de comment faire les relations autrement, et ça va couvrir l'exclusivité, la non-exclusivité, par exemple. Il y aura à boire et à manger pour les deux, et ça te permettra peut-être d'avoir quelque chose de plus complet pour, entre guillemets, finir ce podcast. Ça va prendre un petit moment quand même de tout faire, mais voilà, maintenant que j'ai un peu posé les jalons que je voulais poser pour naviguer tout ça, on va pouvoir parler de choses un peu plus tangibles, un peu plus concrètes. La première chose que je voulais parler avec toi, c'est, je t'en ai parlé il y a un moment, j'en ai pas reparlé récemment, mais c'est parti du principe qu'il y a 3 types de relations. Le premier type, encore une fois, c'est pas mieux ou moins bien, il n'y en a pas une qui est mieux ou moins bien que l'autre, c'est juste 3 types de relations, et voilà la première. Donc, c'est des relations qui sont légères, souvent qui permettent une ouverture sexuelle. Moi, mon mentor, il appelle ça du libertinage. Alors, oui et non, ça dépend un peu du cadre. J'ai croisé des libertins qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Parce que c'est des relations dans lesquelles il y a peu d'engagement et peu de confiance, en fait. C'est vraiment plus des relations légères pour avoir des partenaires sexuels, vivre des expériences. Si on vit du couple, entre guillemets, bah, dès qu'il y a des premiers problèmes, on s'en va. C'est des relations qui ne durent pas souvent. Donc on va retrouver soit les gens qui veulent de la légèreté, de la liberté dedans, soit des gens qui ont du mal à vivre le couple et qui sabotent le couple et qui partent du couple, on va dire, rapidement, quoi. Donc ça, c'est le premier type de relation. Il y a le deuxième, c'est le couple. Donc là, c'est ou en engagement, c'est ou en confiance. C'est vraiment les personnes qui veulent vivre à deux, qui veulent vivre sur la durée, qui ont des projets de vie, etc. Bien sûr, là, bah, toutes les nuances d'avant qu'on a mises sont possibles, hein. Il y a des couples exclusifs, des couples non exclusifs, etc. Il y a plein de nuances que toi, tu peux mettre là-dedans, selon tes envies, tes besoins, tes fantasmes, voilà, tes curiosités. Et le troisième type de couple, c'est le polyamour. Donc là, c'est le couple en multiplié, c'est-à-dire que c'est plusieurs couples. Pas nécessairement qui font de l'échangisme, hein, c'est vraiment avec des gens célibataires aussi autour, quoi, qui sont dans ces relations-là, mais ça forme des couples ou des troupes ou des quadruples ou ce genre de choses. Où là, il y a vraiment, moi quand je te parle de polyamour ici, c'est vraiment en toute transparence, en authenticité, avec une communication ouverte, tu sais qui est avec qui fait quoi avec qui, voilà, est-ce que c'est anarchique ou hiérarchique, peu importe, ce genre de choses, mais tu comprends vraiment ce qui se passe, quoi. C'est pas, il y a beaucoup de polyamour, on se dit polyamour, mais on veut des relations libres et légères et ouvertes, et on veut baiser à droite à gauche, voilà. Moi, j'appelle pas ça du polyamour. Donc là, tu as déjà trois niveaux de relations, entre guillemets, qui demandent plus ou moins d'engagement. Encore une fois, c'est pas mieux ou moins bien, ça dépend d'où tu en es, de ce que tu as envie de vivre, de ce que tu as besoin de vivre. Des fois, on a besoin de faire des expériences aussi, on a besoin de rencontrer d'autres partenaires, d'autres personnes pour vivre ces choses-là. Et ça peut être intéressant, tu peux le vivre au sein de ces trois types de relations. Donc ça peut te permettre de te rendre compte de, ben toi, tu veux quoi? Plutôt de la légèreté, de l'ouverture, des choses plus simples, on va dire. Tu veux du couple, de l'engagement, de la confiance, ou tu veux du polyamour, tu veux vraiment peut-être une relation socle. Ce qui souvent, c'est comme ça qu'on appelle ça en polyamour, c'est une relation socle qui est ta relation principale, et puis des relations qui sont parfois hiérarchisées pour les non-anarchiques, avec bah, ton polyamoureux numéro 2 ou ta polyamoureuse numéro 2, etc., etc. Et bien sûr, encore une fois, les nuances, tout ce qu'on a vu pour ajuster avant. Les quatre dimensions du couple, donc là, ça peut s'appliquer à exclusif, non exclusif, bien sûr aussi, dimension intellectuelle, émotionnelle, spirituelle et sexuelle. Dans l'intellectuel, ça peut être les projets de vie, ça peut être un peu qui est l'autre, les traits de caractère par exemple de qui est l'autre, l'émotionnel, c'est ce que tu vis émotionnellement dans cette relation, le spirituel, on n'est pas obligé d'y mettre, pour certains il y aura la religion dedans, mais ça ne veut pas dire religion, spirituel, pour moi c'est deux choses très différentes, ça peut être une connexion au plus grand que soi, au divin, à la nature, à la vie, ça peut être méditer ensemble, ça peut être, il y a pas mal de choses qui peuvent aller dans la spiritualité, dans ce que toi tu perçois, tu décris comme spirituel dans ton expérience de vie et ce que tu veux vivre dans ton couple. Et le sexuel, bon là, bah, ça peut être la qualité de la sexualité, ça peut être la quantité, ça peut être une relation ouverte, une relation exclusive, non exclusive, etc. Tu peux y mettre plein de choses. Donc là, j'ai un épisode, hein, j'ai plusieurs épisodes où j'explore un peu plus les quatre dimensions du couple. Je ne vais pas trop en parler pour les auditeurs de longue date, bah, sûrement ça te parlera. Mais ça te permet de faire un peu le point dans toutes ces dimensions-là. Et te dire, bah voilà, dans l'intellectuel, il y a ça, j'ai plus grand-chose de stimulant dans ma relation, j'ai beaucoup de stimulation, peut-être que c'est l'émotionnel qui coince, peut-être que c'est sexuel, et mettre un peu de nuance, quoi, dans ta relation, dans les grandes lignes, dans les grandes dimensions qui sont importantes dans une relation, et commencer pour toi à regarder, bah, ouais, qu'est-ce que tu veux vivre un peu plus dans le spirituel, ça te parle pas, peut-être, il y a beaucoup de gens, ils ont du mal avec le spirituel, mais moi, des fois, j'ai du mal... À le réexpliquer, tu vois, à en parler, parce que ça peut être tellement vaste selon qui tu es, et à la fois ça peut être tellement abstrait, mais c'est important de te dire, bah, si c'est pas clair pour moi, ça veut dire quoi la spiritualité? Tu peux chercher sur Google, sur ChatGPT, c'est quoi la spiritualité, ok. C'est quoi la spiritualité en couple? Et commencer à faire tes propres recherches et te dire, bah, ça me parle, ouais. En fait, quand on fait l'amour, les yeux dans les yeux, en connexion, qu'on synchronise nos respirations, qu'on prend le temps, ben, bah, ouais, c'est pas que du sexuel, il y a du spirituel, il y a de l'émotionnel peut-être. Ok. Voilà, ça peut te permettre de regarder ces choses-là. Donc ça, c'est la deuxième carte de lecture. Donc la première, c'était les trois types de relations. La deuxième, c'est les quatre dimensions du couple, intellectuel, émotionnel, spirituel, sexuel. Et peut-être pour explorer un peu plus la sexualité encore, comme c'est quand même, ça me paraît important d'en parler, on va dire, longuement, je sais pas, mais voilà, quand on parle de faire les relations autrement, c'est presque forcément une question qui vient, quoi. Est-ce qu'on est exclusif? Est-ce qu'on est non exclusif? Et là, on va pas aller exactement voir de ce côté-là, mais on va aller voir plutôt du côté des schémas érotiques qui permettent de mieux comprendre ta sexualité. Donc, il y en a cinq. Il y a le sensuel, l'énergétique, le sexuel, le coquin, le métamorphe. Et je vais te parler donc des schémas érotiques dans un premier temps. Après, on va aller voir du côté du slow sex et on va aller voir du côté du tantra, un peu aussi, voir un peu les nuances entre ces trois choses-là. Comment toi, ça peut te permettre d'explorer d'explorer ta sexualité, peut-être de vivre d'autres expériences. Donc bien sûr, le sensuel, on va jouer avec l'essence, hein, donc la vue, l'odeur, etc. L'énergétique, c'est plus l'espace et l'anticipation. Donc là, ça peut être de la lenteur, ça peut être vraiment rallonger les préliminaires, ça peut être du toucher, mais plus subtil, quoi. Même limite, on touche pas le corps, en fait, on touche énergétiquement, ce genre de choses-là. Il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans et qui peuvent vraiment vivre des expériences très fortes. Et ça peut, hein, ressembler à du sensuel pour certains, mais le sensuel, on est vraiment plus dans l'essence. Là, on est vraiment plus dans le subtil, dans l'énergie. Le sexuel, c'est un peu typique, c'est de la pénétration, un peu mécanique des fois, c'est un peu le stéréotype de la sexualité masculine. Et en même temps, ça peut être très bien aussi, hein, c'est pas nécessairement péjoratif. Et ça peut vraiment expliquer une différence et des problèmes dans la sexualité quand il y a quelqu'un qui est très fort, qui a un schéma érotique sexuel très fort, et que l'autre, par exemple, a un schéma érotique sensuel, énergétique. Il peut y avoir vraiment une différence de sensibilité, d'intensité, de rapidité pour aller à l'acte, de disponibilité pour faire l'amour qui peut causer des conflits. Donc c'est aussi pour ça que je les amène, c'est aussi peut-être que ça va pointer du doigt des choses qui vont pas dans ta relation et des éventuelles solutions, parce que tu peux apprendre à parler le schéma érotique de quelqu'un d'autre, tu peux comprendre que l'autre, toi t'es sexuel, l'autre est sensuel, comment je vais réussir à ralentir, stimuler l'essence ou énergétique, tu vas ralentir pour l'énergétique, stimuler l'essence pour le sensuel, comment je vais réussir à faire ça, comment l'autre va pouvoir des fois peut-être aller plus vers quelque chose de sexuel. Et c'est aussi si tu tapes 5 schémas érotiques, tu vas trouver des articles, tu vas trouver un livre, tu vas trouver des choses dessus, donc tu peux t'y référer, tu peux creuser toi-même si tu as besoin. J'ai oublié le nom de la personne qui a inventé cette carte de lecture-là, mais c'est quelque chose qui est dans le milieu de la sexologie, chez les sexologues, etc., chez les gens qui accompagnent autour de ces thèmes-là, qui est vraiment connu et classique, on va dire, donc tu vas en trouver facilement. Le coquin, ça peut être assez vaste, ça peut être les sextoys, le BDSM, les kinks, il y a vraiment plein de choses, le fétichisme, il y a plein de choses qui rentrent là-dedans, donc c'est peut-être une sexualité, on va dire, moins traditionnelle, un peu plus transgressive ou un peu différente, quoi. C'est des choses qui, des fois, on n'ose pas parler, les choses qu'on n'ose pas... qu'on cache un peu en société, qui sont des fois mal vues, sur lesquelles il y a un peu du jugement, quoi, de vivre une sexualité. Pour ça, c'est aussi pour ça que je te disais qu'il fallait du courage, hein, parce que si tu es dans le sensuel, tu es une femme, tu es dans le sensuel ou dans l'énergétique, tu es un homme, tu es dans le sexuel, c'est le stéréotype de ce qu'on attend de toi, entre guillemets, quoi. Bon, déjà, si tu vas dans le coquin, si tu es un homme et que tu aimes le sensuel, quand tu es jeune, c'est peut-être compliqué, quoi. Quand tu vieillis, sûrement ça passe mieux, mais quand tu es jeune. Il y a des filles qui vont peut-être attendre que tu sois dans le sexuel, quoi, de la performance, etc. Donc voilà, c'est des choses qui sont compliquées, qui peuvent être intéressantes d'explorer, d'apprendre à parler un peu tous les langages. Et le dernier, ça va être le métamorphe, qui lui, bien sûr, est à la fois sensible à la sensualité, à l'énergétique, au sexuel et au coquin. C'est quelqu'un qui, on va dire, navigue un peu là-dedans, qui a alors à différents degrés, hein, mais qui est plutôt... intéressé par tous les autres schémas érotiques et capable de les naviguer plutôt avec aise. Alors bien sûr, à différents degrés, différentes intensités. C'est pas parce que t'es métamorphe que tu vas faire les trucs les plus ouf de BDSM ou de Shibari, et voilà. Mais c'est souvent quelqu'un qui est à l'aise avec tous les autres schémas érotiques, tout simplement. Le slow sex, lui, il va vraiment t'inviter à ralentir. Les premiers podcasts que j'ai écoutés, alors je sais plus, c'était en anglais, j'ai oublié le nom de l'émission, c'était il y a longtemps. Et c'était vraiment ça, quoi. C'était quand tu fais l'amour et que tu fais des mouvements, que tu sois homme, femme, que tu sois au-dessus, en dessous, c'est ralenti. Puis quand t'as ralenti, tu vois si tu peux ralentir encore. Puis tu vois si tu peux ralentir encore un peu. Puis tu vois si tu peux encore ralentir. Enfin, tu vois. Et des fois, dans les stages de slow sex, tu verras, il y a des pratiques où même on est dans l'immobilité, on est dans la pénétration sans érection, on est dans l'immobilité parce que. Il faut aller à l'inverse de ce qu'on a vécu avant, donc souvent le schéma érotique sexuel, qui est celui des films porno, qui est celui qui est le plus mis en avant par notre société. Il faut vraiment vivre l'inverse et pratiquer l'inverse pour pouvoir ressentir une certaine sensibilité, ce qui se passe de l'échange entre les sexes, quand il y a par exemple pénétration sans mouvement, juste que, quoi, un sexe en érection, sans érection, et à l'intérieur de l'autre, et qu'est-ce qui se passe, quoi. Il faut du temps, il faut... Voilà. Donc le slow sex, il va inviter à ça. Donc il y a des bouquins sur le slow sex, il y a des stages, il y a des séminaires, tu peux faire des week-ends, tu peux faire des semaines, il y a des gens qui sont vraiment spécialisés, tu peux trouver pas mal de choses. Mais déjà, si tu veux pratiquer, c'est... Voilà, si tu sens de l'excitation, que tu t'emballes et que t'es pas conscient, c'est peut-être... ralentis avec ton souffle, prends le temps, ralentis les mouvements, et Ce qui peut se passer, c'est que tu sens pas grand-chose pendant un moment. Hein. Ce n'est pas des choses qui se défont rapidement. Si ça fait 20 ans que tu fais l'amour comme une bête, on va dire bestialement, intensément, sexuellement, que ta pratique personnelle sexuelle dans tes masturbations, c'est des choses qui sont aussi intenses. Hommes-femmes en général, hein, les pratiques de masturbation vont dans le sexuel, dans le schéma érotique, quoi. On est dans l'intensité, avec les vibromasseurs aussi, avec les gadgets même pour hommes, on est dans l'intensité, quoi. Donc là, comme tu vas devoir ralentir, bah peut-être que tu vas devoir regagner une certaine sensibilité. Le tantra, il invitera sûrement aussi à ça, avec peut-être des choses, on va dire, un peu plus ésotériques, un peu plus spirituelles. Peut-être que tu vas faire un petit rituel avant de faire l'amour, tu vas prendre le temps de te saluer, tu vas faire une méditation, tu vas rajouter des choses qui sont pas juste du slow sexe, quoi. Pour certains aussi, ça pourrait dire utiliser l'énergie sexuelle pour faire un rituel à ce qu'on appelle en tantra Ishtadevi, ta divinité de prédilection. Ça peut être un dieu, ça peut être voilà, ça peut être la plante dans ton jardin, ça peut être l'écureuil dans un arbre, qui tu veux. Il n'y a pas de ça va pas être un dieu ou une déité, ça peut être voilà, mais utiliser ton énergie sexuelle dans un rituel par exemple pour ça. Donc il y a vraiment une dimension, si tu vas dans une sexualité tantrique, qui peut ressembler à du slow sexe, qui peut ressembler à du sensuel et de l'énergétique, si je repars sur les schémas érotiques, certains parfois dans le coquin, il y a des gens qui proposent des choses qui sont dans le schéma érotique du coquin, dans le tantra aussi, mais on va dire que si je devais faire une différence du coup entre tout ça, s'il y avait un vrai tantra, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, quelque chose de plus grand que nous, connexion au divin, une manière de voir l'autre qui est un peu différente que juste ralentir, juste faire du slow sex, ou juste être sensuel et énergétique et ralentir, en fait, tout simplement. Peut-être que c'est pas simplement le fait de prendre du plaisir pour toi, cet acte-là. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre voilà, qui se joue. La vie, voilà, peu importe comment tu veux l'appeler. J'espère qu'au travers de ces trois cartes de lecture, donc les trois types de relations, les quatre dimensions du couple, les trois sous-outils, entre guillemets, hein, pour voir pour la sexualité, donc ça fait en réalité cinq cartes de lecture, ça te permet de te rendre compte qu'il y a de la nuance à mettre dans ta relation, dans ton couple. Il y a des choses à penser, il y a des choses à. Tu vois, si tu vis ton couple en automatique tout le temps, que tu t'es jamais posé la question de oh, est-ce que je veux du. Déjà, de trucs assez basiques, hein, de l'exclusif, du non-exclusif. Ok. Bon, je veux de l'exclusif, très bien. Tout le reste qu'on a vu et qu'on n'a pas vu, il y a plein de choses là-dedans. Je veux du non-exclusif, ok, mais est-ce que je veux quand même une base? Est-ce que je veux quand même un couple à la base? Est-ce que j'en veux pas? Est-ce que. Voilà. Et explorer tout ça et réfléchir un peu à ça et vraiment voir encore une fois ce qui est là pour toi, ce qui est juste pour toi, sans te dire que l'un c'est mieux que l'autre, sans te dire qu'il y en a un qui est plus évolué ou plus avancé que l'autre, c'est vraiment juste. C'est le panoplie des possibles. Il y a sûrement d'autres options que je t'ai pas amenées, mais ça c'est les, on va dire, c'est les plus courantes, c'est quand même, ça permet d'élargir déjà pas mal et te poser ces questions-là et de faire cette exploration-là. En tout cas, n'hésite pas à venir aussi en commentaire, échanger un peu tes réflexions, peut-être par email si c'est plus personnel, si tu as des questions. Vous êtes régulièrement, vous le faites, et tu le fais, et c'est apprécié, quoi, vraiment, ces petits échanges, c'est, voilà, des, ah, ben, t'as pas parlé de ça, et puis t'as parlé de ci, mais t'as pas dit grand-chose, j'ai pas bien compris, etc. C'est vraiment apprécié, donc n'hésite pas à envoyer un email, à poster un commentaire à la suite du podcast. Comme toujours, si tu veux soutenir le podcast, la meilleure solution, c'est de t'abonner. Plus il y a d'abonnés, plus il est visible. Donc ça, c'est super. Tu peux aussi le partager. Tu peux aussi mettre un commentaire ou mettre une étoile. Donc l'étoile, c'est le petit classement. Enfin, c'est ton appréciation, entre guillemets. Ça va souvent de 1 à 5 étoiles, si t'aimes bien le podcast ou pas. Donc n'hésite pas à faire l'un ou tout ça. Ça prend quelques minutes, même pas quelques secondes des fois. Et ça aide énormément à la visibilité. Moi, je propose des accompagnements en développement relationnel. Donc, si tu veux faire le point, démêler un peu où tu en es au niveau du couple, si tu veux faire une transition dans ton couple, si tu veux faire ta relation autrement, bah, ça peut être quelque chose qu'on peut faire ensemble. Ça peut être intéressant de discuter ça avec moi. Tu peux le faire avec un psychologue, avec une thérapeute, avec un sexologue, peu importe la dimension dans laquelle dans ta relation tu as besoin de te faire accompagner. Mais voilà, on peut aussi faire ça ensemble. Et ça permet quand même de peut-être que j'amène des questions auxquelles t'as pas pensé, des outils auxquels t'as pas pensé, des choses qui peuvent aider, qui peuvent guider en fait vraiment. C'est pour ça que j'ai appelé ça un accompagnement. C'est pas du coaching, c'est pas de la thérapie. C'est un peu l'endroit, il est un peu différent. C'est vraiment pour accompagner dans des démarches d'aller vers du mieux faire, d'aller faire évoluer son couple quelque part. Et l'accompagnement, il est très bien pour ça. Et enfin, j'ai un e-book que je t'offre qui est gratuit, qui est sur graindecoeur.fr et il suffit de rentrer ton prénom et ton email. Pour le recevoir par email, tout simplement, à le télécharger et le lire d'où tu veux. Je te remercie, je te dis à la semaine prochaine, ciao!